Il murmurait de temps à autre « Ce pauvre mignon, ce pauvre chéri !» Il tâchait de trouver un sujet de conversation agréable. L'idée de la Vatnaz lui revint. Il dit qu'elle lui avait semblé fort élégante. « Parbleu, reprit la maréchale, elle est bien heureuse de m'avoir celle-là. » Sans ajouter un mot de plus, tant il y avait de restrictions dans leurs propos. Tous les deux sentaient une contrainte, un obstacle. En effet, le duel dont Rosanette se croyait la cause avait flatté son amour-propre. Puis elle s'était fort étonnée qu'il n'accourût pas se prévaloir de son action. Et pour le contraindre à revenir, elle avait imaginé ce besoin de 500 francs. Comment se faisait-il que Frédéric ne demandait pas en retour un peu de tendresse? C'était un raffinement qui l'émerveillait, et dans un élan de cœur, elle lui dit « Voulez-vous venir avec nous au bain de mer ?»« Qui cela, nous ? Moi et mon oiseau ? Je vous ferai passer pour mon cousin, comme dans les vieilles comédies. Mille grâces. Eh bien, alors vous prendrez un logement près du nôtre. » L'idée de se cacher d'un homme riche l'humiliait. « Non, cela est impossible. À votre aise. » Rosanette se détourna, ayant une larme aux paupières. Frédéric l'aperçut, et pour lui marquer de l'intérêt, il se dit heureux de la voir, enfin dans une excellente position. Elle fit un haussement d'épaule. Qui donc l'affligeait? Était-ce par hasard qu'on ne l'aimait pas? « Oh, moi on m'aime toujours, » elle ajouta. « Reste à savoir de quelle manière. » Se plaignant d'étouffer de chaleur, la maréchale défit sa veste, et sans autre vêtement autour des reins que sa chemise de soie, elle inclinait la tête sur son épaule avec un air d'esclave plein de provocation. Un homme d'un égoïsme moins réfléchi n'eût pas songé que le vicomte, M. de Comin ou un autre, pouvait survenir. Mais Frédéric avait été trop de fois la dupe de ces mêmes regards pour se compromettre dans une humiliation nouvelle. Elle voulut connaître ses relations, ses amusements. Elle arriva même à s'informer de ses affaires et à offrir de lui prêter de l'argent. S'il en avait besoin, Frédéric, n'y tenant plus, prit son chapeau. « Allons, ma chère, bien du plaisir là-bas. Au revoir. » Elle écarqua les yeux, puis d'un ton sec. « Au revoir. » Il repassa par le salon jaune et par la seconde antichambre. Il y avait sur la table, entre un vase plein de cartes de visite et une écritoire, un coffret d'argent ciselé. C'était celui de Madame Arnoux. Alors, il éprouva un attendrissement, et en même temps comme le scandale d'une profanation. Il avait envie d'y porter les mains, de l'ouvrir. Il eut peur d'être aperçu et s'en alla. Frédéric fut vertueux. Il ne retourna point chez Arnoux. Il envoya son domestique acheter les deux nègres, lui ayant fait toutes les recommandations indispensables, et la caisse partit, le soir même, pour Nogent. Le lendemain, comme il se rendait chez Deslauriers, au détour de la rue Vivienne et du boulevard, Madame Arnoux se montra devant lui, face à face. Leur premier mouvement fut de reculer. Puis, le même sourire la vint aux lèvres et ils s'abordèrent. Pendant une minute, aucun des deux ne parla. Le soleil l'entourait, et sa figure ovale, ses longs sourcils, son châle de dentelle noire, moulant la forme de ses épaules, sa robe de soie gorge de pigeon, le bouquet de violettes au coin de sa capote, tout lui parut d'une splendeur extraordinaire. Une suavité infinie s'épanchait de ses beaux yeux, et balbutiant au hasard les premières paroles venues. « Comment se porte Arnoux ?» dit Frédéric. « Je vous remercie. Et vos enfants ? Ils vont très bien. Hein. Quel beau temps nous avons, n'est-ce pas ? Magnifique, c'est vrai. Vous faites des courses ? Oui. » Et avec une lente inclination de tête, « Adieu. » Elle ne lui avait pas tendu la main, n'avait pas dit un seul mot affectueux, ne l'avait même pas invité à venir chez elle, n'importe. Il n'eût point donné cette rencontre pour la plus belle des aventures, et il en ruminait la douceur tout en continuant sa route. Deslauriers, surpris de le voir, dissimula son dépit, car il conservait par obstination quelque espérance encore du côté de Madame Arnoux, et il avait écrit à Frédéric de rester là-bas pour être plus libre dans ses manœuvres. Il dit cependant qu'il s'était présenté chez elle afin de savoir si leur contrat stipulait la communauté. Alors, on aurait pu recourir contre la femme. Et elle a fait une drôle de mine quand je lui ai appris ton mariage. Tiens, quelle invention! Il le fallait. pour montrer que tu avais besoin de tes capitaux. Une personne indifférente n'aurait pas eu l'espèce de syncope qu'il a prise. « Vraiment ?» s'écria Frédéric. « Ah, mon gaillard, tu te trahis. Sois franc, voyons. » Une lâcheté immense envahit l'amoureux de Madame Arnoux. « Mais non, je t'assure, ma parole d'honneur. » Ces molles dénégations achevèrent de convaincre des lauriers. Il lui fit des compliments, il lui demanda des détails. Frédéric ne donna pas et même résista à l'envie d'en inventer. Quant à l'hypothèque, il lui dit de ne rien faire, d'attendre. Deslauriers trouva qu'il avait tort et même fut brutal dans ses remontrances. Il était d'ailleurs plus sombre, malveillant et irascible que jamais. Dans un an, si la fortune ne changeait pas, il s'embarquerait pour l'Amérique où se ferait sauter la cervelle. Enfin, il paraissait si furieux contre tout et d'un radicalisme tellement absolu que Frédéric ne put s'empêcher de lui dire « Te voilà comme Sénécal ». Deslauriers, à ce propos, lui apprit qu'il était sorti de Sainte-Pélagie. L'instruction n'ayant point fourni assez de preuves, sans doute, pour le mettre en jugement. Dans la joie de cette délivrance, Dussardier voulut offrir un punch et pria Frédéric d'en être, en l'avertissant toutefois qu'il se trouverait avec Hussonnet, lequel s'était montré excellent pour Sénécal. En effet, le flambard venait de s'adjoindre à un cabinet d'affaires portant sur ses prospectus « Comptoir des vignobles, office de publicité, bureau de recouvrement et renseignement, etc. » Mais le bohème craignait que son industrie ne fît du tort à sa considération littéraire, et il avait pris le mathématicien pour tenir les comptes. Bien que la place fût médiocre, Sénécal, sans elle, serait mort de faim. Frédéric, ne voulant point affliger le brave commis, accepta son invitation. Dussardier, 3 jours d'avance, avait ciré lui-même les pavés rouges de sa mansarde, battu le fauteuil et épousté la cheminée, où l'on voyait sous un globe une pendule d'albâtre entre une stalactite et un coco. Comme ses 2 chandeliers et son bougeoir n'étaient pas suffisants, il avait emprunté au concierge 2 flambeaux, et ses 5 luminaires brillaient sur la commode, que recouvraient 3 serviettes, afin de supporter plus décemment des macarons, des biscuits, une brioche et 12 bouteilles de bière. En face, contre la muraille tendue d'un papier jaune, une petite bibliothèque en acajou contenait les fables de La Chambaudie, Les Mystères de Paris, Le Napoléon de Norvin, et au milieu de l'alcôve, souriait, dans un cadre de palissandre, le visage de Béranger. Les convives étaient, outre Deslauriers et Sénécal, un pharmacien nouvellement reçu, mais qui n'avait pas les fonds nécessaires pour s'établir, un jeune homme de sa maison, un placeur de vin, un architecte et un monsieur employé dans les